Comment est-ce que je vous propose de le lire? On va commencer par essayer de dissiper ce que j'appelais les brumes matinales, ou qu'on pourrait appeler aussi quelques faux ennemis qui semblent nous barrer la lecture de Fairy Queen. En fait, je crois que ça se saute assez bien. Ces faux ennemis, on va voir, c'est un double problème de référence, et puis c'est la question du snobisme, parce que c'est un texte snob, c'est vrai. Le problème de référence, il est double, parce que j'entends référence à la fois au sens de référence culturelle, il y a des références culturelles qui sont présentes dans le bouquin, et qui peuvent nous donner l'impression qu'elles font barrage. Si on n'a pas les références, on ne comprend pas. En fait, les références ne sont pas si nombreuses, et on peut être embarqué par le texte même sans les connaître. Moi, c'était mon cas à la première lecture. Et le deuxième problème de référence, c'est au sens linguistique, c'est-à-dire à quoi Cadio se réfère-t-il? De quoi est-ce qu'il parle? Quel est l'objet? Quel est l'objet? Donc, une fois qu'on aura réglé ces problèmes de référence et cette question du snobisme, moi, je vous proposerai d'envisager Fairy Queen en se posant la question du roman, de la poésie et du théâtre, en voyant en quoi le texte relève de ces trois genres et même les dépasse. Et puis, je vous présenterai enfin comme un manifeste de la vie multiple. Je crois que c'est ça que veut faire Cadio. Il n'est pas là juste pour nous déballer des formules. Il nous parle d'une possibilité d'existence différente. La vie multiple. Il a été très influencé par la vie mode d'emploi de Pérec. Je crois que sa manière à lui de rebondir par rapport à Pérec, c'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie multiple. C'est qu'on soit tous plusieurs. Qui va faire un sacré paquet de monde, si je regarde autour de moi. Donc j'attaque avec mes problèmes de référence. D'abord, référence 1, la culture. Donc il y a une Gertrude Stein qui est évoquée au milieu du texte, qui est un personnage important, et il se trouve que cette Gertrude Stein, eh ben, c'est un personnage qui a existé, c'était un écrivain. Donc si on ne connaît pas Gertrude Stein, est-ce qu'on peut lire Fairy Queen? Moi je crois que oui. Cela dit, c'est toujours bien de parler de Gertrude Stein, moi ça me fait plaisir, et puis en plus je vous en ai fait écouter, et voilà, c'est vraiment puissant. Donc Gertrude Stein, 1874, Pennsylvanie, 1946, Neuilly. Elle aussi, c'est une papesse, comme Olympia, mais pas tout à fait dans le même domaine. C'est une papesse de l'avant-garde littéraire et picturale, voilà, au début du XXe et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc. Elle a beaucoup, beaucoup joué dans l'avènement de Picasso, de Juan Gris, de Picabia. Elle a accueilli chez elle tout le gratin pendant des années. Elle avait de l'argent, mais elle en a plus à un moment aussi. C'est pour ça qu'elle s'est mise à acheter des Picabia, en fait, semble-t-il. Connaître Gertrude Stein, évidemment, ça vous donne un certain accès au texte, notamment pour comprendre le style de Cadio. Même s'il ne fait pas du Gertrude Stein, vous avez pu l'entendre, c'est très différent. Mais il retient des leçons de Gertrude Stein. Cela dit, je crois que c'est absolument pas nécessaire de connaître Stein pour lire Cadio. Moi, c'était mon cas à la première lecture. Il y avait un personnage dans le bouquin qui s'appelait Gertrude Stein, et puis voilà, puis j'ai découvert après qu'effectivement, elle avait vécu. Pourquoi c'est pas nécessaire? Parce que dans Fairy Queen, il s'agit d'un personnage, et plus d'une personne, tout simplement. Ça devient un personnage. Et à quoi est-ce qu'il sert ce personnage? Il sert d'autorité un peu cinglée. Il sert de chamagne assez ivrogne. Autrement dit, Gertrude Stein, elle va, par son autorité, adouber l'héroïne. Elle a une fonction d'adoubement. L'adouber, comme un chevalier. Fairy Queen, elle va adouber la fée. C'est-à-dire qu'elle va faire connaître sa valeur artistique au monde. La fée est invitée chez Gertrude Stein pour dire des poèmes, pour faire une performance, on va voir. Et à la fin, bah, elle a rencontré le gratin et Gertrude Stein lui dit « Vous, vous en êtes une. Vous en êtes. Vous en êtes. » C'est un peu comme chez Proust, qui est une grosse influence de Cadio. Il y a la question d'en être ou de ne pas en être. Faire partie des groupes sociaux, faire partie des cercles homosexuels aussi ou pas, chez Proust. En être ou ne pas en être, c'est une question importante, appartenir à un groupe. Et Gertrude Stein, c'est une espèce d'initiatrice qui fait que Fairy Queen, la fée, va se mettre à faire partie d'un collectif. Au départ, c'est un individu. Et à la fin, elle fait partie d'un groupe. Et c'est ça la fonction du personnage Gertrude Stein. La preuve qu'il s'agit d'un personnage et plus de la personne historique, c'est qu'il y a des espèces de troubles sur la chronologie. Fairy Queen, quand elle s'approche de chez elle, elle ne sait plus si c'est 1905, 1974, si c'est la Pennsylvanie ou si c'est Vienne. Bon, c'est pas important, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas là pour faire la biographie de Gertrude Stein. On est là pour utiliser Gertrude Stein comme un personnage d'initiatrice. Donc vous ne connaissez pas Gertrude Stein, c'est pas grave, vous pouvez lire Fairy Queen. Une performance, ça c'est mon deuxième point dans les problèmes de référence culturelle. Une performance. La fée veut faire une ou des performances, c'est pas clair, un ou des poèmes, elle hésite. Entre le collectif, entre le multiple et le singulier, c'est pas un hasard s'il y a cette hésitation entre le multiple et le singulier. Ça travaille beaucoup Cadio. Bon, si vous voyez pas ce que c'est qu'une performance, bah, c'est plus compliqué à imaginer ce qu'elle vient faire chez Gertrude Stein. Donc si vous ne connaissez pas Gertrude Stein et qu'en plus vous ne savez pas ce que c'est qu'une performance, vous ne comprenez pas l'intrigue. Enfin, en tout cas, vous avez cette impression. Je crois que cette impression est fausse. Mais je vais quand même vous parler de performance parce que c'est un peu comme le son d'humidité ou écouter Gertrude Stein, ça me plaît. Pour moi, c'est un terme très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie pas au sens courant d'exploit. Si vous tapez performance sur les images de Google, c'est génial. Vous avez plein de graphes ou de pubs pour des boîtes d'audit qui vont aider les entreprises à améliorer leur performance. Vous avez comme ça des grilles avec la progression du chiffre d'affaires de l'entreprise. Si vous tapez performance, au départ, c'est ça. C'est vrai que c'est le sens le plus utilisé de performance aujourd'hui. Alors, ça a plein de sens en anglais. En anglais, c'est un mot qui est beaucoup plus courant que chez nous. Si vous allez à une représentation de théâtre, vous pouvez dire « it's a performance ». Chez nous, qu'est-ce que c'est devenu? Chez nous, ça renvoie dans la tête de Cadio, de façon importante, mais pas unique, à une forme d'expression artistique qui est née au XXe siècle et qui a tout changé. C'est pour ça que j'en profite pour vous en parler. Parce que la performance dans l'histoire de l'art, c'est une révolution. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce qu'il ne s'agit plus de montrer l'art comme un résultat, un tableau fini, une sculpture pour toujours. Il s'agit de montrer un processus en train de se faire. Il s'agit de voir l'artiste au travail. Il s'agit de voir une action en cours. Donc je vous ai amené un point de bifurcation très très important dans l'histoire de l'art, que j'ai imprimé d'abord par hasard, mais je me suis dit que c'était plutôt rigolo, comme ça. Voilà, c'est deux représentations, deux moments de l'œuvre de Yves Klein qui s'appelle « Anthropométrie ». Les anthropométries, c'est une idée très simple, ça consiste à remplacer le pinceau par un corps. On va peindre avec le corps. On arrête le coup des pinceaux. Maintenant, on peint avec le corps. Et évidemment, c'est des femmes nues, ça fait scandale. Sauf qu'en fait, c'est juste des très très belles toiles. Le résultat, c'est ça. Si vous avez l'occasion de les voir, il y en a à Madrid, il y en a... Avec le fameux bleu de Klein, le IKB, International Klein Blue. Il a créé un type de bleu, en fait. Il a juste fait ça dans sa vie. Avant lui, il y avait un bleu qui manquait, puis après, il y avait un nouveau bleu. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Bah, c'est que c'est devenu des tableaux, bien sûr, mais c'est que la chose en train de se faire était publique. C'est à l'articulation des deux grands moments de l'histoire de l'art, l'art comme produit fini et l'art comme processus. Et pourquoi est-ce qu'on voit que ce processus, il insiste dessus, Klein? Bah parce que d'abord, il y a des photos du public, là, je ne les ai pas amenées, mais elles sont géniales. Donc le public était invité. C'est très, très drôle. Et surtout, il y a des musiciens. C'est un concert aussi. Donc c'est vraiment un moment qui est perçu comme artistique, qui est montré comme artistique. Le fait de montrer l'œuvre en train de se faire, ça fait partie de l'art, à partir du XXe siècle. Et performance, c'est ça que ça veut dire. La performance, c'est un acte. C'est le fait d'accomplir un acte. Au départ, historiquement, c'est un terme qui est né pour les courses de chevaux. Donc, c'est cette idée d'une action en train de se faire. Donc, ce mouvement de passage du résultat au processus, du produit fini à l'action en train de se faire. Il concerne ce qu'on appelle des plasticiens, des peintres, des sculpteurs, tout ça, mais aussi progressivement et de plus en plus des écrivains qui sont avides de désacraliser le livre comme propos définitif et à voix basse pour expérimenter d'autres formes d'oralité que celle du théâtre ou de la chanson. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'écrivains qui sont lecteurs de leurs textes. Et moi, je m'identifie très très fort à ce courant-là, c'est pour ça que je suis content de partager ça avec vous. Bon, en fait, on n'a pas besoin de connaître le terme de performance pour comprendre ce que vient faire Fairy Queen chez Stein. Je vais lire mes poèmes, quoi. Donc elle vient lire des poèmes. Après, performance, ben ma foi, si on ne sait pas, c'est pas grave. Cela dit, pourquoi est-ce que Cadio laisse performance? C'est pas seulement pour la référence à l'art contemporain, c'est parce que je crois que c'est une clé de lecture possible. Fairy Queen, c'est un texte au présent. C'est un texte processus. On a l'impression que Cadio est en train d'écrire sous nos yeux. Et du coup, on fait, avec Fairy Queen, une méditation sur l'expérience du présent, comme infinité de possibles. On a l'impression que Fairy Queen avance en permanence dans des carrefours et qu'elle a le choix entre aller à gauche, à droite, en bas, en haut. Et le présent, c'est ça. C'est des carrefours. Et ça, performance le traduit bien. Le mot performance le traduit bien. Quand Cadio a fait la une du Matricule des Anges, qui est une des revues spécialisées en littérature aujourd'hui vraiment intéressante, ils ont eu cette idée marrante, à mon avis ratée, parce que la photo n'est pas très belle, mais de le mettre, pas de face, mais tourné, comme si Cadio était en train d'avancer. Exactement comme Fairy Queen. Ou comme son colonel des Oies, qui était un personnage précédent. Il est en train d'avancer. Il est en train de. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas un côté nombriliste là-dedans? Un poète performeur, Olivier Cadio, parle de poésie et de performance. Bon, un côté un peu, ça tourne en rond. Sauf que c'était le cas dans le modèle du songe. Sauf que dans le songe d'une nuit d'été, il y a la même chose. Et que ça choquait personne à l'époque. Dans le songe d'une nuit d'été, il y a une pièce de théâtre. Les personnages montrent une pièce de théâtre. Shakespeare nous refera le coup dans Hamlet plus tard. Et puis c'était un coup qui était très fréquent dans le théâtre élisabéthain, montrer le théâtre dans le théâtre. On appelle ça techniquement une mise en abîme. À l'époque, personne s'embêtait à dire « Oh là là, ce Shakespeare, qu'est-ce qu'il est nombriliste ?» Non, c'est juste que à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, on peut toujours l'entendre, il y a quelque chose de réflexif dans l'œuvre littéraire. Très souvent, une œuvre littéraire, ça parle de littérature. Ouvertement ou pas, Cadieux le fait ouvertement. Voilà, donc dans le sens d'une idée, c'est les rustres du village qui montent Pyram et Thisbé. Et puis ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pyram et Thisbé, ils étaient séparés par un mur, et il y a un type qui joue le mur, et qui le fait pas bien, il n'arrête pas de les interrompre, donc on n'arrive pas à croire à la pièce, enfin il y a plein de problèmes. Donc je crois que Cadieux se souvient de ça aussi, il se dit, ben non, mais puisque Shakespeare l'a fait, moi j'y vais, quoi. On va pas s'embêter. Théâtre dans le théâtre, performance dans la performance. Voilà pour les problèmes de référence culturelle. Maintenant, les problèmes de référence au réel. De quoi ça parle? Et pourquoi est-ce que Cadieux est si compliqué quand il essaie de parler de quelque chose? Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne se prend pas au sérieux avec ça. Souvenez-vous, Fairy Queen arrive, elle est dans ses petits souliers, tout ça, et elle veut complimenter Gertrude Stein sur la cuisine. Et elle lui dit « Oh, c'est délicieux ce lapin !» Et l'autre lui répond « Mais c'est pas du lapin, c'est de la blanquette !» Et elle, elle est là, elle est confuse, elle dit « Ah mais pardon, pardon, pardon !» Comme c'est Alistoclas, grande cuisinière qui a fait des livres, qui a préparé la blanquette, et bien évidemment, Alistoclas est très très en colère. Il y a le même problème plus loin, et c'est pas le problème de Fairy Queen, c'est le problème entre Alistoclas et Gertrude Stein, quand elle parle des fleurs qu'il y a sur le balcon. Gertrude Stein dit « C'est pas des géraniums !» Et Alistoclas lui dit « Mais comment c'est pas des géraniums? Vous foutez de moi, c'est moi qui les arrose !» Et etc. Elle commence à s'embrouiller. Donc, pour les personnages, en fait, le monde n'est pas clair. Si vous avez eu l'impression que c'était compliqué de comprendre le monde de Fairy Queen, c'est parce que vous étiez dans le même monde que les personnages. On peut être gêné par cette apparente absence de continuité dans l'histoire et par cette difficulté à identifier un propos, des références qui sont précises par rapport au réel. Mais donc, c'est bien celle que font les personnages. Parce que c'est un monde que Cadieux veut laisser davantage dans le domaine du possible que du réel. C'est des géraniums? Peut-être pas. Ça va encore plus loin que ceci n'est pas une pipe. C'est peut-être une pipe, mais peut-être pas. Ou alors, si ça se trouve, c'est un arbre vu de loin. Ça, ce serait très Cadieux. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cet auteur qui veut rester toujours dans le domaine du possible et pas dans le réel? Bon, c'est vrai qu'il y a un côté régressif là-dedans. Il y a un côté « je veux pas de la réalité ». Mais il y a aussi une possibilité de nouveauté, d'ouverture. Une possibilité, et ça, c'est le rôle des personnages de Cadieux, d'exploration. Quand le réel, c'est que du possible, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre chapeau, votre boussole et vous allez voir. Parce que rien n'est clair, rien n'est simple. Et en même temps, tout est amusant. La continuité dans Fairy Queen, elle est d'abord rythmique. Et là, vous avez vu sans doute qu'il y avait un héritage de Stein, de Gertrude Stein, dans un certain usage de la répétition. S'il y a une continuité dans Fairy Queen, c'est la continuité rythmique entre des paragraphes longs et des tout petits paragraphes. C'est tout le temps comme ça. Un gros paragraphe, deux mots. Un gros paragraphe, un mot. Un gros paragraphe, trois mots, un gros paragraphe, un mot, etc. La continuité, c'est celle-là. La vraie continuité, celle par laquelle Cadieux ne nous laisse jamais tomber, c'est une continuité quasiment télégraphique. Long, court, long, court, long, court. Et là-dedans, il découpe en petits chapitres. Là-dessus, il est d'une grande constance. Or, les paragraphes courts, c'est souvent des questions. Des relances du dernier mot sous forme de questions. Je vois des arbres, des liquides en barre, des trucs, des ifs géants. Ifs géants? Et puis baf, ça repart. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que si le monde est incertain, si on fait l'exploration de ce monde, la question, c'est ce qui relance en permanence l'exploration. On va vérifier, on va essayer de répondre à la question. Les questions, elles relancent l'exploration du monde par des tentatives d'identification. On peut aller voir page 29. Fairy Queen est en train d'attendre dans la salle d'attente de Gertrude Stein, parce qu'elle a ça chez elle, hein, Gertrude Stein, comme un médecin. Pour tous les gens qu'elle reçoit, il y a une espèce de salle d'attente. Et puis, c'est tout sombre. Elle dit, mais comment une femme aussi moderne peut vivre dans un truc aussi sombre? C'est une question qui revient tout le temps. Comment une femme aussi moderne peut mettre des robes aussi atroces? Comment une femme aussi moderne peut avoir des papiers peints aussi moches, etc. Et donc, elle regarde par les persiennes. Et là, il y a de la lumière. Et il y a du vert. Et ça commence, page 29. Jardin phosphorescent. Zone verte. Sport fluo. Terrain de sport. Un terrain de sport convertible entouré de grillages, avec des marques en typographie molle, blanc sur rouge imprimé sur des toiles, sport, ici, oui, passe, à moi, sifflet, on dirait que l'écrit en dessous compose une phrase musicale, polyphonie de chasse à cour avec effet bois lointain, vocalisation aboiement, spectre à ondulation, ruban fugué, canon pour voix d'enfant, concert pygmé, ruisseau vocal, sœur rivière, ça se complique. Tu m'étonnes. Non, tu m'étonnes, c'est pas écrit. Donc, le tour de force qu'il y a là-dedans, c'est de développer un style où les questions, les doutes du personnage par rapport à l'espace où il se trouve et à ce qu'il y fait, n'entravent pas du tout la progression du texte. C'est intégré au flux dynamique de la parole, ça la relance. Le doute n'est plus un obstacle. Mais justement, comment ça progresse? Il me semble que le déroulement de l'histoire, il est constamment travaillé par un principe de bifurcation. Il y a une ligne droite, et puis il y a plein d'embranchements, tout le temps. Alors, il y a différents types de bifurcation, mais c'est le principe principal, quoi. Le principe premier. Le principe central, voilà. Ça m'évitera de faire une lapalissade. Soit on bifurque par analogie. Page 37, par exemple. Alors, c'est super drôle. Gertrude Stein est en train d'expliquer à la poétesse, elle lui explique la vie. Elle lui dit, non mais tu sais, dans la vie, en fait, il n'y a rien d'important. Hein. Au centre, il y a du vide. Et elle lui dit, c'est comme dans le bouddhisme, voilà. En fait, le réel est bouddhique, quoi. Il n'y a rien au centre, il n'y a rien d'important. Tout est équivalent. Et là-dessus, elle enchaîne. Voilà, il suffit de dynamiser notre existence et notre style autour du vide. C'est ça, du coup, la question. C'est simplement qu'autour du vide, il faut faire du mouvement. Et là, elle lui dit, c'est comme une sauce béarnaise. Bifurcation par analogie. Là, le texte avance avec une analogie. C'est comme une sauce béarnaise. La vie, c'est comme une sauce béarnaise. Parce qu'avec une sauce béarnaise, bah, en gros, vous faites monter de la matière autour du vide. Avec le fouet, vous créez une espèce de vide central et vous faites monter la matière autour. Bon, juste après, il y a un autre principe de bifurcation. Je lui donne un exemple de comment faire une béarnaise. Je réduis mon vinaigre avec mon estragon. Elle ferme les yeux. Reste une cuillerée maximum. Après, je monte au beurre. Elle ferme les yeux. Je monte, ça vient. Je monte au beurre. J'y vais doucement. J'attends. Je baisse mon bain-marie. J'y vais. Je recommence. Je monte au beurre. Yes, yes. Je fouette. Ça prend. C'est bon. Ça prend. J'aime la béarnaise. Et là, bifurcation par dérive avec le gratin qui a bien pompé le jus du rôti. C'est ça que je préfère. Le gratin. Le gratin. Vive le gratin. Donc là, il y a une bifurcation par dérive. Au départ, elle lui parle de la béarnaise par analogie avec l'existence, en gros. Et après, elle passe sur le gratin par dérive culinaire, quoi. Mais le gratin, il n'a plus rien à voir avec le sens de la vie. Bon, là, évidemment, il y a une blague sur le gratin mondain. C'est second, ça. Donc, je vous ai parlé de deux types de bifurcation. Par analogie, par dérive, par rupture, pure et simple. Ça, c'est toujours possible. Hop, je vous parle d'autre chose. Donc, ça, c'est un peu plus loin. Bon, là, elles se sont mises à bouffer, du coup, du lapin, délicieuse lapin. Non, c'est juste avant le lapin. Elles sont à l'apéro, quoi. Donc, Fairy Queen parle de Gertrude Stein, page 42. Elle déglutit dans un long silence. Après votre truc, on va se faire une bonne afternoon party. After, after, afternoon. Prenez ça avec les huîtres. Elle me tend, là, il y a une faute. Elle me tend des petits gâteaux goût de champignons sucrés. Elle ressemble brusquement à un hippopotame habillé en duchesse. Alors ça, c'est l'arrivée d'une image par rupture, quoi. Il y avait Gertrude Stein en train de parler, puis d'un seul coup, il y a un hippopotame habillé en duchesse. Un peu comme dans Fantasia. Bon, là, au moins, on est dans la pure fantaisie jubilatoire de l'écrivain qui est en roue libre, quoi. Il se dit, bon, j'ai une histoire, les gens vont me suivre, j'ai une poétesse qui va chez Gertrude Stein, voilà. Donc, à un moment, je m'offre une petite image, hop, un petit pas de côté. Gertrude Stein, hippopotame, habillé en duchesse. Et ça, ça n'arrête pas. Il y en a tout le temps, comme ça, des images qui déboulent, on ne sait pas d'où, par rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que la référence au réel nous semble compliquée au départ? Parce qu'on a une habitude, nous, on a l'habitude que les écrivains nous dessinent du réel par identification. Puis ils nous disent, là il y a une pomme, là il y a une table, on avance, là il y a le Gange, on est en Inde, etc. Bon. Cadio, il ne procède pas par identification. Les choses ne sont pas une chose. Il faut que tout reste ouvert. Et pourtant, on n'est pas nulle part. Les contours sont flous, mais on avance. En fait, le réel, il ne se dessine pas tellement par identification, il se dessine par écholocation. C'est ce truc que font les chauves-souris et les baleines. Elles se situent par rapport à l'écho. Elles savouaient leur lieu par écho, l'écholocation. La parole ne saisit pas le réel, elle ne l'agrippe pas. Elle rebondit contre et elle renvoie une image approximative, un peu floue. Ça, c'est ce que dit très bien Fairy Queen elle-même à cette page 66. Le va-et-vient des paroles me renseigne en permanence sur ma position. Je te parle à la vitesse du son, je me guide en te parlant. Le va-et-vient des paroles me renseigne en permanence sur ma position. Ça, c'est la technique chauve-souris, clairement. Donc le réel, c'est ça. Il n'est pas attrapé, il n'est pas saisi. Il offre à la parole une surface de rebondissement. Alors le bouchon de radiateur, c'est le Spirit of Ecstasy, en fait. C'est une référence au bouchon de radiateur des Rolls-Royce. Donc ça, c'est Fairy Queen, en fait. Ça, c'est à la page juste avant, hein, page 65. Spirit of 4 étoiles. Parce qu'à chaque fois qu'il est question de Dieu et de mystique et tout ça, c'est mis avec 4 étoiles. Spirit of c'est Fairy Queen. Spirit of Ecstasy, c'est le nom donné à cette petite figurine par le sculpteur qui a créé le bouchon de la Rolls-Royce. Il en est question dans Melody Nelson de Gainsbourg, aussi, puisque c'est avec une Rolls-Royce qui rentre dans le vélo de Melody Nelson. En fait, Melody Nelson aussi, c'est comme si c'était le bouchon de la Rolls-Royce qui devenait réel. Et c'est la jeune fille dont il tombe amoureux. Bon, un petit point sur le snobisme. Ça peut gêner ce côté snob du texte. C'est vrai, c'est snob, ces références. Il les laisse. Et c'est pas juste parce que c'est des clés de lecture, c'est aussi parce que c'est chic. Bien sûr. Il y a une volonté manifeste chez lui de ne pas écrire comme tout le monde, de toute façon. Mais en même temps, vous l'aurez remarqué, Cadio se moque du snobisme. Il se moque des mondanités, par exemple. Par exemple, Ferry Queen rappelle toutes les bienséances qu'il convient de respecter quand on est invité quelque part. Ne jamais arriver à l'heure écrite sur le carton. Et repartir quand on vous propose une orangeade. Ça encadre tout le récit, les mondanités. Donc Cadio, il les connaît, il s'en moque. Le coup de l'orangeade, ça a l'air d'évoquer des échos. Le snobisme et sa critique, c'est un trait récurrent de toute l'histoire littéraire. Pensez à Proust. Proust est à la fois un super snob et quelqu'un qui se moque du snobisme tout le temps. Parce que le snobisme, justement, c'est ça qui est génial avec, c'est que c'est appartenir à des groupes qu'on quitte. C'est jamais fixe. C'est des trucs d'appartenance, mais qui sont temporaires. Contrairement à la noblesse, qui est l'autre grand groupe agglutinatoire dans la recherche du temps perdu. Il y a les nobles, et ça, on l'est pour toujours. Et il y a les snobs, et ça, ça n'arrête pas de changer. Ça bouge. Les groupes d'influence se transforment. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. C'est ça qui est génial. Il y a à la fois un rapport d'imitation et de refus de la noblesse. Et ça, c'est super important dans toute l'histoire littéraire. Et même nous, là, qui sommes réunis autour de cette table parce qu'on aime bien écrire, il y a du snobisme là-dedans. Même si on veut aussi partager des expériences qui sont profondément bouleversantes et qui sont sincères. Comment est-ce que le snobisme et la sincérité, ça peut s'articuler dans la littérature? Ben, mine de rien, on est là pour partager des secrets, je crois, quand on s'intéresse à l'écriture. On a envie de partager des secrets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'exprimer, mais ça veut dire qu'il faut aussi coder. Parce que les secrets, on ne les raconte pas à tout le monde. On choisit à qui on les raconte, ces secrets. Il faut coder, il faut cacher. Autrement dit, il faut snober. Le snobisme, c'est une manière de préserver la valeur des secrets. Et ça, c'est important dans l'écriture, préserver la valeur des secrets. Et surtout, ce qui est bien, c'est que Cadio, ça ne l'embarque pas complètement dans une impasse d'incommunicabilité. Au contraire, même puisqu'il empoigne toutes les formes pour produire un texte qui fait la synthèse de toute notre culture littéraire. Donc, il n'est pas embarqué dans une impasse avec son snobisme. Bon, ça, c'est le point le plus important de ce texte. Hein. Alors, j'ai repris le type de formulation que fait Cadio par interrogative. Roman, point d'interrogation, poésie, point d'interrogation, théâtre, point d'interrogation. C'est le deuxième grand point que je voudrais développer. En quoi est-ce que Ferry Queen relève du roman? Au moins à double titre, une échelle macro et à une échelle micro. À une échelle macro, il y a une trame, il y a une trame narrative, qui est complètement disparue des poèmes depuis au moins la chanson de Jess. Enfin non, depuis Victor Hugo, disons Victor Hugo. Il y a un fil narratif global qui tient bon malgré les incessantes bordées vers l'extérieur. Pour ceux qui n'auraient pas lu, je résume Ferry Queen, c'est toujours rigolo de faire ça. On commence à bien savoir ce qui se passe, mais... Si je veux être exhaustif, je dirais ça. Une poétesse performeuse est invitée à déjeuner par l'écrivain Gertrude Stein pour présenter son travail au gratin, justement. On rencontre le personnage à la fin du coup de fil avec Gertrude Stein. Oui, elle est super contente. Et l'histoire rapporte alors son trajet vers le domicile de Gertrude Stein, où elle est complètement hystérique, le monde est magnifique. Son arrivée et sa rencontre avec le couple, Stein, Toklas. Le déjeuner, donc de la blanquette, pas du lapin. Et les préparatifs de la performance dans une sorte de loge. Où elle trouve rien pour s'habiller, c'est horrible. Et elle finit par mettre une toque de trappeur. De façon intéressante, il y a une ellipse sur la performance proprement dite. Le moment de la performance n'est pas montré, n'est pas décrit, n'est pas raconté. Et on retrouve l'héroïne juste après. Elle dit « Oui, j'ai fait un truc assez bien. » Mais elle n'est pas sûre. Elle sort sur le balcon, elle rêve au milieu des géraniums. Et elle s'adresse à un frère mystérieux. En équilibre au-dessus du vide. J'y reviendrai à cette figure de frère. Et au bout d'un certain temps, Stein la récupère vivement, la prend dans ses bras, là, avec ses gros bras d'hippopotame. C'est une scène assez tendre et assez rude en même temps. Et elle la double, poétesse, quoi. Elle lui dit « Non, mais c'est bon, vous en êtes. » Là, elle danse encore un coup, et puis c'est l'heure de l'orangeade. Il faut partir. Bon, ce scénario qui peut sembler mince, machin, il n'est pas si déroutant. On l'a déjà rencontré dans plein d'histoires. La fête, que ce soit une fête mondaine ou pas, c'est un ressort fréquent des histoires. Il y en a plein dans l'Odyssée, il y a tout le temps des banquets, donc c'est quand même la naissance de la littérature. Dans Rabelais, évidemment, pas de Rabelais sans fête. Mrs. Dalloway, qui est un de mes romans préférés, ça part des préparatifs d'une fête vers la fête, c'est une très belle intrigue. Et puis pensez à Astérix, mais oui, tout termine par une fête. Et c'est pas pour rien, je veux dire, c'est une machine narrative qui fonctionne des années, parce qu'on attend le banquet à la fin sous les étoiles. Pourquoi est-ce que ça marche bien, la fête, comme motif narratif? Parce que c'est choral. On passe d'un personnage à la réunion de tous les personnages. Il y a un effet de symphonie, si vous voulez. Bon, ça, c'est un premier truc qui peut nous rassurer par rapport à l'intrigue de Fairy Queen. Oui, nous, les histoires de fêtes, on connaît bien. Mrs. Dalloway, on l'a étudié. L'Odyssée, j'en parle tout le temps. Rabelais, j'en parle tout le temps. Mais il y a un autre aspect de l'histoire qu'on connaît bien, nous, déjà, aussi. C'est par rapport à l'adoubement. Gertrude Stein adouble la fée comme poétesse. Puis elle se qualifie, elle aussi, hein, page 79, de chevalier-fille. Et là, il y a aussi une forme d'adoubement plus proche de la tradition chevaleresque. Cet adoubement, il inscrit d'une certaine façon Fairy Queen dans le sous-genre du roman de formation, dont on avait parlé avec la Grande Bœuf. Entre le début et la fin, Fairy Queen, c'était une jeune poétesse inconnue, puis ça devient une poétesse connue. Elle a rencontré le monde. Et ça, c'est le schéma du roman de formation. Même si là, c'est un peu une blague, ce schéma, il est là. Ça, c'est pour le niveau macro. Au niveau micro, donc, intrigue macro, donc, vous avez compris, elle est tout le temps, en même temps, tirée vers l'extérieur, vers autre chose, vers on ne sait pas quoi, par des pensées incessantes. Et dans ces pensées, il y a des récits. Là aussi, il y a des petits romans, à l'échelle micro. Des petits romans qui ne sont pas le roman principal, mais qui sont vraiment des petits romans. Et en plus, ça fonctionne un peu comme Feuille d'herbe, pour ceux qui étaient là, quand on avait travaillé dessus. Bon, Feuille d'herbe, c'est un poème. C'est pas une histoire. Mais il y a dans Feuille d'herbe plein de petits romans. Des romans de 10 vers, 15 vers. Parfois un peu plus longs. Et les romans qu'il y a dans Fairy Queen, ils sont empruntés aux deux genres principaux du roman. C'est des récits de guerre et des récits d'aventure. Donc on est en terrain connu. C'est pas si bizarre que ça. Page 15, à partir d'une rêverie sur la plaque qu'il y aura un jour devant chez Gertrude Stein, qui est une allusion à la guerre, FTP fusillé. C'est parti. Ici, Londres, les carottes sont cuites. Lafayette, nous voilà. Guerre froide, baie des cochons. On avance dans l'autre sens du temps. Sonnerie, drapeau, clac-clac. Elle se met au garde à vous et exécute la chorégraphie Arlington de mains pliant, drapeau, cercueil, dessiné dans l'air, claquement de bottes à la verticale et armes hurlées, grondement, solitude absolue, grande cour, chevaux noirs, gazon pur, idéalisme sous les pieds. Je ferai un jour une performance avec tout ça. Parade, cornemuse, etc. Crâne rasé, Spencer immaculé, tendu. Soldat de comédie musicale. Bon, là, il y a un petit roman de guerre en minuscule, en rétréci. Et puis, il y a des romans d'aventure aussi un peu partout qui démarrent, notamment autour de cette figure assez bien trouvée par Cadio de Trappeur des villes. Il dit, voilà, ah ben, ça tombe bien, cette année, c'est la mode Trappeur des villes. Et c'est vrai que quand c'est sorti en 2002, il y avait un peu partout, dans les boutiques chics du quartier où vivait Gertrude Stein 60 ans avant, il y avait un peu partout des vêtements pour femmes de Trappeur des villes, quoi. Avec la truc d'Avi Croquette. Voilà, c'était le début de la moumoute partout, quoi. C'est encore un peu là, d'ailleurs. Trappeur des villes. Page 68, par exemple, il y a toute une scène de descente de radeau qui se passe dans la tête de la narratrice, qui commence par « J'ai mon canoë en aluminium ». C'est vraiment comme un enfant qui a un nouveau jouet, quoi. « J'ai mon canoë en aluminium ». Bon, voilà. Donc, il y a des éléments de romanesque structurants, à la fois à l'échelle macro et à l'échelle micro. Et puis il y a cet éclatement permanent qui met surtout la langue en valeur, et ça, c'est le grand ressort de la poésie. Donc c'est l'autre creuset dans lequel Cadio va puiser la poésie pour construire ce texte. Donc on a déjà parlé de la liberté de construction, du principe de bifurcation, qui est vraiment une spécificité de la poésie depuis l'éclatement historique du vers, depuis la fin du 19e où le vers a volé en éclats, et avec lui la strophe. La poésie peut se construire avec toutes sortes de structures, notamment par rupture. Par choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est possible. C'est Jean-Paul Gou qui dit que le roman, c'est la fabrique du continu. Mais ça, c'est le roman. Parce que la poésie, justement, elle s'illustre par d'autres types de constructions, notamment par l'éclatement. Pensez à René Char, hein. La parole en archipel. Un de ses plus beaux recueils. La parole en archipel. Il n'y a plus un continent en narratif. Il y a une myriade d'îles. Donc, j'insiste pas sur cette propriété-là dans le texte de Fairy Queen qui relève de la poésie. La liberté de construction. D'autres choses qui relèvent de la poésie, c'est la dimension sonore et rythmique du langage, et c'est ce que Gertrude Stein appelle les images mortes et chaudes. Ça, c'est des grands aspects, des grandes spécificités du travail poétique. La dimension sonore et rythmique, le travail sur les images. Cadio s'intéresse au son, bien sûr. Il y a plein d'onomatopées tirées du rock'n'roll. Il y a plein d'anglais, il y a un intérêt pour le babil. Il y a des espèces de rimes qui surgissent ici et là. Page 39, par exemple, il y a une liste. Allô, boulot, corbeau, traîneau. Ça, c'est une liste poétique. C'est une liste qui tient par le son. Mais là où il est le plus fort, très clairement, pour moi, c'est sur le rythme, à l'intérieur de la phrase. Surtout dans ces longs paragraphes. Et l'articulation long-court, bien sûr. Mais dans les longs paragraphes, ce qu'il fait, c'est génial. C'est vraiment de la descente à ski, avec les virgules qui sont les portes. Mais l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui travaille le phrasé et qui sort la phrase du modèle de la période latine, qui est toujours faite de grands segments, peu nombreux. Là, il y a plein de petits segments, il y a des longs par moment, mais il y a une grande liberté dans la taille des segments qui sont ajoutés les uns aux autres. Donc, le dernier aspect poétique, c'est les images mortes et chaudes. Donc ça rejoint mes conseils obsessionnels sur les métaphores vives, hein, dont je vous parle tout le temps. Je pense que c'est une référence possible à Ricoeur, qui est le philosophe qui a créé la notion de métaphore vive, en tant que métaphore qui n'a jamais été dite, contrairement aux ailes de l'avion. Les ailes de l'avion, c'est une métaphore morte, parce que tout le monde le dit. Il n'y a même pas d'autre manière de désigner ce truc-là qui fait que les avions tiennent. On dit une aile, mais c'est une métaphore. C'est une métaphore en passant par le modèle des oiseaux. Donc elle lui dit ça, Gertrude Stein, elle parle d'images mortes et chaudes, juste après la performance de Fairy Queen, page 62, et elle lui dit « C'était vachement bien, vachement bien. Par contre, n'utilisez que des images mortes. Hein. Il y en a marre, il y a trop d'images trop chaudes. Parlez par images mortes, sinon c'était bien. Tout le monde a adoré. Dites-moi, c'était formidable. À un moment, on pense vraiment que vous êtes un poisson. » Donc ça veut dire que si Gertrude Stein dit à Fairy Queen « Il y a trop d'images chaudes », ça veut dire que Cadio a un travail sur les métaphores vives. C'est une manière pour lui de dire « Je travaille sur les métaphores vives. » Et effectivement, il y en a plein. Par exemple, page 25, « Je suis introuvable, je suis introuvable, une machine à laver au fin fond d'un basement, un petit moteur dans les bois, ça tourne, c'est lent, ça remonte. » Moi, j'ai jamais lu personne qui s'identifiait à une machine à laver. Donc, métaphore vive. L'idée, donc, c'est que roman plus poésie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un texte qui est disponible pour la voix, pour la scène. Et donc là, on touche au théâtre. C'est autant un roman qu'un texte de pièce de théâtre. Donc il y a le rythme, il y a l'histoire qui font que c'est théâtral, que c'est théâtralisable. Mais il y a aussi des trouvailles que Cadio a faites pour qu'on puisse à la fois avoir du plaisir à lire ça comme un roman et à l'entendre sur une scène. Qu'est-ce qu'il a fait comme trouvaille? Il a pris deux caractéristiques communes au roman et au théâtre pour écrire son texte. Ces deux caractéristiques, c'est le temps présent, c'est écrit au présent, sauf quelques décrochages qu'il laisse encore dans le domaine du roman. Le temps présent, s'il avait écrit un roman au passé, comme la plupart des romans, des récits, ça aurait été beaucoup plus difficile à adapter pour le théâtre. Mais là, comme c'est une action en train de se faire, c'est théâtralisable. Si c'était écrit « La marquise sortie à 5 heures », ben, il faut tout de suite qu'il y ait un personnage qui soit là pour dire « J'ai vu la marquise qui sortait à 5 heures ». Mais moi, là, au présent, je peux vous dire que j'ai vu dans le passé une marquise sortir. On n'en finit plus, quoi. Donc lui, il fait une action au présent. Et l'autre trouvaille, l'autre point commun entre le roman et le théâtre, c'est « je ». C'est la première personne. Un personnage qui parle. Donc c'est aussi bien un roman à une voix qu'un monologue de théâtre. Il y a une voix principale qui accueille toutes les autres. C'est ça l'idée. Dans Olympia, il n'y a vraiment qu'une voix. C'est un vrai roman monologue. Alors, il y a deux types de décrochage. Il y a effectivement des introductions de voix parallèles, au sens où on entend Gertrude Stein, on entend Aristoclas, on entend Formidable, tout ça. Bon. Mais il y a une espèce de voix commune qui nous accompagne dans tout ça, et qui est celle qui entend et qui rapporte les propos. Et puis, il y a des effets d'appartenance au roman, avec des moments où Fairy Queen est décrite comme un L au passé simple. Vous vous souvenez, ça c'était déjà un trait commun qui était beaucoup plus développé, mais beaucoup plus lourdement, par Arnaud Bertina dans Anima Motrix. Le personnage est tout le temps décrit entre « je conduis » et « il conduisait ». Dans Fairy Queen, ça reste beaucoup plus discret. Alors il y a des passages indécidables, hein, mais le début, « un déjeuner ça vous va volontiers, mais oui, je hurle intérieurement ». Ça c'est quoi? C'est une indication romanesque d'un point de vue intérieur, ou c'est une didascalie? Ce truc de théâtre qui consiste à dire « voilà ce qui se passe ». Et que je ne peux pas mettre dans le dialogue. Il s'avance vers les trois arbres. Une didascalie, ça s'appelle. Ce caractère théâtral du texte, il est évidemment différent du caractère théâtral du songe. Le songe, il y a plusieurs personnages clairement identifiés. Les voix sont attribuées par leur nom au départ, etc., etc. Il y a une intrigue qui est plus simple, mais qui est déjà très complexe. Moi, je n'ai jamais tout à fait bien compris qui voulait se marier avec qui dans le songe d'une unité. Donc, c'est un texte de théâtre, Fairy Queen, qui est différent d'un texte de théâtre traditionnel, mais c'est un vrai texte de théâtre. C'est disponible pour la scène. Au passage, donc Fairy Queen, là-dedans, elle s'appelle Titania. Titania, censée être, dans la mythologie grecque, c'est la sœur des titans. Et vous irez voir page 69 dans Fairy Queen, quand elle dit « j'ai mon canoë en aluminium », là. Bah, dans le canoë, il y a des tas de trucs, évidemment, parce que les personnages de Cadio sont toujours prêts à survivre en pleine nature, ils ont tout le temps des tas d'équipements. Trapper 1953, dragon de course, rangement en cuir et toile imperméable ont été fixés sur les plats-bords pour contenir harpon en titane, tube souple, bouteille d'oxygène ultra-plate, etc. Donc il glisse du titane à un moment, juste pour nous dire, vous vous souvenez, Titania, voilà. Vous avez vu, j'ai fait des recherches. Ça, c'est une préciosité. Ça, c'est vraiment un plaisir d'auteur qui est absolument dispensable. Donc, roman, poésie, théâtre, on est dans un principe là aussi de bifurcation et d'indécidable. On ne peut pas attribuer ce texte soit que au roman, soit uniquement à la poésie, soit uniquement au théâtre. Et cet indécidable, ça fait partie de la leçon que Cadio veut nous donner sur la vie, je crois. Il faut que la littérature reste indécidable quant au genre auquel elle appartient, parce qu'il faut que la vie garde une multiplicité, un caractère multiple. C'est mon dernier point. Mais je crois que c'est vraiment un manifeste pour la vie multiple, Fairy Queen. En le relisant, ça m'a fait penser à cette phrase de Kierkegaard, « Du possible, sinon j'étouffe ». Il y a un côté vital, un côté nécessaire dans la multitude, dans la multiplicité des choses. Si les choses sont trop ce qu'elles sont, on étouffe. Du possible, sinon j'étouffe. Il faut qu'il y ait du possible, sinon j'étouffe. Le possible, là, il est opposé au réel. C'est ce qui pourrait se passer. Alors, je m'en explique avec cette autre blague que fait Cadio, mais qui est une blague très puissante, comme peuvent l'être les blagues parfois. Page 54, c'est mon histoire d'Yves Géant. Quand il regarde par les persiennes, là, qu'est-ce que je vois ? Terrain de sport, jardin, campagne. Il y a des palmiers, c'est une jungle, en fait. Ça devient délirant, c'est une jungle. Liquide en bas, azalé, Yves Géant. C'est d'abord au pluriel, Yves Géant. Et juste après, c'est repris, Yves Géant au singulier. Sauf que cet if géant, c'est aussi le if anglais. Le si géant. Fairy Queen, c'est un si géant. Tout est du domaine de l'hypothèse. If. C'est un if géant. C'est presque une description du bouquin. Ça pourrait s'appeler comme ça. If géant. Et ça, ça peut paraître complexe comme ça. Contemporain, moderne, que des mots qui sont des mauvaises critiques. Mais c'est déjà dans le songe. C'est déjà dans Shakespeare. C'est un if géant, le songe d'une nuit d'été. Qu'est-ce que ça raconte, le songe d'une nuit d'été ? C'est deux couples, principalement, qui s'échangent. Ils n'arrêtent pas de tomber amoureux les uns des autres, simplement en prenant une espèce de filtre qui est distribué par un gnome malicieux qui s'appelle Puck. Deux couples se confrontent, ils ne sont pas stabilisés, les identités flottent. C'est pareil, il y a plein de textes de Shakespeare comme ça, dans les premières périodes de Shakespeare. Les identités amoureuses, les appariements, les couples, ça n'arrête pas de flotter. Et les mariages, à la fin du songe d'une nuit d'été, ils sont présentés comme une résolution heureuse, mais c'est aussi le grand retour de l'ordre, avec ce qu'il a de figé, voire de répressif. Or, Cadio, il reprend exactement cette expérience de flottement. Qui aime qui va avec qui est qui. Sauf qu'il l'amplifie, il la prolonge. Il a vraiment compris la leçon de Shakespeare. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il maintient une identité multiple, mais à l'intérieur d'un seul personnage. Et dans un univers qui mélange cette fois tous les temps et tous les espaces. Alors que dans le songe, on était quand même vaguement en Grèce et vaguement en été. Sauf que c'était la nuit, donc à un moment où tout est suspendu, une saison de changement. Il prolonge le boulot de Shakespeare. Il fait un songe. C'est un songe. Et je crois que c'est pour ça qu'elle s'appelle Fairy Queen, son héroïne. C'est une fée parce qu'elle vit entre le rêve et la réalité. Et c'est peut-être la reine des fées parce qu'elle y demeure dans ce songe. On n'en sort pas. Contrairement à Shakespeare qui résout par des mariages à la fin, elle est adoubée poétesse à la fin, mais on reste dans l'ordre du possible, on reste dans l'ordre de la multiplicité. Et ça se joue au moins à deux niveaux, cette multiplicité dans Fairy Queen, pour prolonger le boulot de Shakespeare, pour étendre le songe. Ça se joue au moins à deux niveaux. Ça se joue sur le temps et l'espace. On va voir que c'est une uchronie et une utopie. C'est une utopie, en fait, Fairy Queen. On pourrait dire ça aussi comme genre. C'est une utopie. Une uchronie aussi, c'est-à-dire l'équivalent de l'utopie, mais dans le temps. L'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, l'uchronie, c'est ce qui n'a pas de temps unique. Et puis, on va voir, pour finir, que la vie multiple, ça se joue sur le personnage. C'est un personnage en constellation. Alors, l'uchronie, elle se joue de façon très claire dès le début, puisque c'est une performeuse d'aujourd'hui qui vient en basket rencontrer une papesse de l'avant-garde qui est morte après-guerre. Donc, c'est un texte qui n'a pas de date. Vous souvenez, il y a un flottement sur les dates de Gertrude Stein. Page 13, il y a tout un truc sur « il y aura une plaque un jour devant cette maison ». Et effectivement, il y a une plaque aujourd'hui quand on va rue de Fleurus. Mais juste après, on ne comprend pas bien. La plaque, elle a été posée. Bon, ça, c'est vraiment la représentation de cette uchronie. On est soit avant que la plaque soit posée, soit une fois qu'elle a été posée. Page 13, il y aura une plaque. Et page 15, cette plaque, c'est un peu maigre. Donc, il y aura une plaque, on est avant 46. Et cette plaque, c'est un peu maigre, ben, on est en 2000. Autrement dit, donc là, c'est un exemple typique du procédé de Cadio qui consiste à appliquer le conseil de Walter Benjamin. Faire éclater le passé dans le présent. Ça vient de Walter Benjamin, ça. Cette formule que j'ai retenue pour nos quatre livres. Faire éclater le passé dans le présent. C'est dans le livre des passages de Walter Benjamin. Qu'est-ce que ça veut dire, faire éclater le passé dans le présent ? Ça veut dire que le présent de l'action, du poème qui est en train de s'écrire, il met le passé en mille morceaux. Il le diffracte. Au lieu de le figer dans un récit unique, nos ancêtres les Gaulois. C'est pas nos ancêtres les Gaulois, là. Tiens, Gertrude Stein, il y aura une plaque là un jour. Et puis, c'est un peu maigre cette plaque quand même. Comme la recherche du temps perdu, Fairy Queen nous fait faire une expérience profonde du temps. Mais il n'y a pas à le retrouver, contrairement à ce que fait Proust. Il n'y a pas à le retrouver. Le présent avance et il charrie les éclats de passé avec lui. C'est bon. Il n'y a pas besoin de retourner en arrière. Le présent, ça suffit. Tant qu'il reste ouvert. Bon, l'utopie, elle se manifeste aussi autour de l'adresse de Gertrude Stein, autour du devant de la maison de Gertrude Stein. C'est écrit 67 rue de Fleurus, dans le bouquin. Et si vous allez voir, pas du tout. Hein. Gertrude Stein, c'est pas là qu'elle a vécu. Elle a vécu au 27. 27 rue de Fleurus. Bon, ça, c'est un petit détail, parce que même si vous ne savez pas tout ça, l'espace est complètement flottant. Dans « Retour durable et définitif de l'être aimé », le texte dont on a entendu un extrait tout à l'heure, Cadio dit « ça se passe dans la post-campagne ». Et c'est un peu ça, le lieu de Fairy Queen aussi. La post-campagne. A priori, on est en ville, on va rue de Fleurus, on est dans la ville des villes, on est à Paris. Et pourtant, il suffit de regarder par une persienne, et là, il y a une jungle avec des palmiers. Et « Trappeur des villes », ça correspond exactement pour l'utopie que plante Cadio que celle du trappeur des villes, celui qui vit à la campagne en ville. Et Fairy Queen elle-même, finalement, dans la loge de chez Gertrude Stein, elle finit par trouver un chapeau d'Ali Croquette et des chaussures à talons. Donc elle est à la fois habillée en trappeuse et en urbaine, quoi. Et ça, ça fait transition vers cette histoire de personnage en constellation. Elle est elle-même multi-trappeur des villes. C'est le personnage parfaitement adapté à cette utopie et à cette uchronie. Son caractère multiple, il est incertain dès le départ. Est-ce que c'est une humaine ou est-ce que c'est une fée? C'est pas tranché. Est-ce que c'est une folle? Page 69, c'est écrit « Je ne suis plus une seule personne ». Ça veut dire à la fois « je suis plus personne » et « je suis plus une personne unique ». Je suis plusieurs personnes. C'est sans doute pour ça, je pense, que Cadio ne lui donne pas de nom. On n'en a pas parlé pour l'instant, mais elle n'a pas de prénom, cette Fairy Queen. Titania, c'est jamais écrit. C'est écrit « j'ai des harpons en titane ». Mais c'est pas écrit Titania, elle n'a pas de prénom. Bon, il est question de Calmant, dans ma vie d'avant, il est question de Lacan. Alors, il y a toujours des espèces de types de gourous comme ça qui se présentent dans les bouquins de Cadio pour guérir, quoi. La question de la guérison, elle est très importante dans ces textes. Mais c'est toujours pour s'en moquer. Elle dit aussi « j'ai la maladie des ressemblances ». Et ça, c'est un trait clinique, hein. C'est le délire maniaque. Dire « c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme ». L'analogie, qui est l'un des outils principaux des écrivains, c'est aussi un gros problème clinique. Hein. Quand ça se manifeste de façon excessive, on ne sait plus où on est, quoi. Alors, est-ce que c'est une folle? Je crois plutôt que Cadio utilise des éléments de folie pour faire adopter une posture spéciale à son personnage. Il y a une autre manière de le dire, qui vient de ce qu'elle dit quand elle s'adresse à son frère. Elle dit « je ne stocke pas, moi ». Je ne stocke pas. Alors son frère est une espèce de maniaque. En fait, son frère, si on connaît les autres bouquins de Cadio, c'est Robinson. C'est le Robinson qui vit sur son île déserte et qui stocke, comme un fou, qui ordonne, qui classe, qui organise. Elle ne stocke pas, contrairement à son frère, et contrairement à Olympia aussi. Vous vous souvenez, Olympia ? Je garde. Je garde. Pourquoi ? Parce que Olympia, c'est une femme d'État. Olympia, elle est dans l'État. Elle veut créer un être stable. Fairy Queen, elle est dans le devenir. Voilà comment je peux le dire. D'une façon plus simple, peut-être, plus définitive. Et ça, ça peut ressembler à de la folie, être dans le devenir, parce que c'est tellement pas la norme. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de richesse, elle dépense ses potentialités. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Fairy Queen.